Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 7, c'est le numéro 303, il est dédié aux pervers narcissiques. La saison 7 est la suite logique en réponse à toutes vos questions sur Instagram, plutôt par message privé d'ailleurs, parce que ça concerne souvent des sujets très personnels en réalité. Et les pervers narcissiques étaient l'épisode le plus écouté parmi les 300 premiers épisodes de lancement du podcast Les Doigts dans le Miel. Eh bien oui, parce que nous sommes dans le numéro 303, rôle inversé, où nous allons parler tout simplement de la manière qu'ont les pervers narcissiques, en tout cas d'une manière assez large, assez globale. Après, à chaque cas, eh bien, suffit sa peine, on va dire ça comme ça. Qui fait que, en réalité, c'est pas la personne qui nous donne l'impression de se faire désirer. Non. C'est nous qui avons l'impression, nous en tant que personne qui cherchons à nous rapprocher de celle-ci parce qu'on a envie de se faire valoir, eh bien, auprès de quelqu'un qui semble nous inspirer. Alors, c'est tout à fait particulier. Mais je vais revenir sur les méthodes du fonctionnement de cette saison 7 qui est construite également en 50 épisodes, puisque chaque saison de Les Doigts dans le Miel fait 50 épisodes. Ces 50 épisodes, du coup, sont dédiés aux pervers narcissiques. Et nous sommes avec une approche particulière, c'est-à-dire que les 7 premiers épisodes sont dédiés à la manière dont on rencontre un pervers narcissique. Il s'avère que le parti pris est de dire que les pervers narcissiques sont peut-être des personnes terribles, mais que ceux qui les rencontrent et qui sont pris au piège à cause de ces gens-là ont aussi quelque chose de terrible en eux. Et oui, mine de rien, dans un échange, c'était dans la saison 6 et dans la saison 5 de Les Doigts dans le Miel, dans un échange, nous sommes les miroirs l'un de l'autre. Nous sommes face à des miroirs déformants. Nous sommes le reflet de soi. On se voit soi en l'autre. Et parfois, quand il nous manque quelque chose, quand on a des blessures profondes, quand on a des combats intérieurs qui sont difficiles à mener, eh bien, il s'avère que d'une manière ou d'une autre, eh bien, on se renvoie la balle entre personnes et que les opposés s'attirent parce qu'ils se complètent. Et c'est tout à fait remarquable de voir à quel point, eh bien, au même titre que deux personnes, je vais dire extraordinaires, peuvent travailler ensemble à l'élaboration de quelque chose d'encore plus extraordinaire, eh bien, deux personnes à qui il manque quelque chose, deux personnes qui sont fêlées de l'intérieur parce qu'elles ont vécu des blessures extrêmement douloureuses, eh bien, ça fait que, en réalité, elles trouvent dans l'autre personne, et c'est pas du tout théorique, c'est extrêmement pratique, je vais revenir dessus, elles trouvent en l'autre personne ce qui leur manque. Et en l'occurrence, nous sommes dans cette phase d'approche des pervers narcissiques qui fait que dans cette notion de bestialité, d'animalité, eh bien, entre l'appât du roi et les jeux de cour qui étaient les épisodes 301 et 302 et que j'avais enregistré, c'était en octobre dernier je crois, mais je les ai publiés seulement bien ce 20 et ce 21 février, eh bien nous en sommes justement à cet épisode des rôles inversés. Les rôles inversés, c'est quoi? Eh bien, c'est quand, vous savez, c'est quand la victime a l'impression d'être de ne pas être considérée comme la victime. C'est le moment où celui qui a perdu a l'impression d'être gagnant. C'est un peu le moustique qui va sur la lumière dans la nuit et qui se dit « Waouh, mais ça brille mille feux ici, depuis quand est-ce que je cherchais ça ?» Eh bien, c'est maintenant, je le trouve, j'y vais, et là, flac, griller les ailes, griller et décès. Bon, en l'occurrence, toute rencontre avec un pervers narcissique ne conduit pas à un décès, mais conduit à une certaine emprise, à une véritable emprise extrêmement profonde, liée à la prison mentale, à une prison émotionnelle, pourquoi pas même à une prison spirituelle, qui deviennent en fin de compte tous les trois, eh bien, une prison clairement physique. Et en l'occurrence, on aurait pu reparler de l'épisode du cheval de Troie, qui était, je crois, dans la saison 3, une manière de ressentir les émotions dans une situation future désirée, eh bien, dites-vous bien que les rôles inversés, ils produisent exactement le même effet. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas du tout qui est cette personne. On ne la connaît pas. On la juge. On la jauge. On essaye de comprendre qui elle est à travers ses mots, à travers ses paroles, à travers ses actes, à travers sa manière de se comporter et sa manière d'être avec nous. Et en l'occurrence, les jeux de cours, c'était de voir à quel point autour de cette personne, gravitent beaucoup d'autres personnes qui donnent un effet tout à fait remarquable. C'est un peu comme les planètes dans le système solaire. Le pervers narcissique est le soleil, le roi soleil. Voilà, c'est pour ça que j'avais appelé ça les jeux de cours. Et grosso modo, il y a tout un tas de prétendants qui ont envie de se rapprocher de cette personne. Et pourtant, il y a une sorte de jeu de cours qui fait que les pseudo-prétendants, qui sont en fait d'autres personnes comme nous tous, se comportent d'une manière courtisane avec ce fameux roi soleil, ce fameux pervers narcissique. Je vais l'appeler le roi soleil, tiens, ce sera original. En l'occurrence, l'appât du roi, à la base, le 300, c'était de se rendre brillant. C'était d'être exactement comme avec un pêcheur à la mouche, en train d'agiter, au bout de sa canne à pêche, un appât qui ressemble à une libellule, à une mouche, c'est pour ça qu'on appelle la pêche à la mouche, et qu'il agite, comme ça, au-dessus d'une rivière, au-dessus d'un étang, au-dessus de la mer. Le poisson en dessous, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Il regarde attentivement cette mouche et il se demande à quel moment elle va bien tomber dans l'eau pour qu'il la dévore, pour qu'il la mange, pour qu'il la bouffe. Grosso modo, le pêcheur à ce moment-là, c'est comme une araignée. Il est en train de tisser sa toile et il se fait désirer. Il crée du désir, il crée de la curiosité. Quelle est donc cette espèce d'animal qui bouge au-dessus de moi, cette mouche, et qui fait que j'ai vraiment envie de la manger parce qu'elle m'excite quelque part, elle attise ma convoitise et j'ai bien envie de goûter à ce qu'elle propose. C'est un menu de roi. Là, pour le coup, on est en plein dans la royauté. Le côté pratique, pour transposer ça au monde du vivant, ça va être qu'on va voir quelqu'un, une personne, qui a l'air d'être remarquable. Il y a beaucoup de gens autour d'elle qui semblent y tenir, qui semblent vouloir s'en rapprocher, qui sont capables de la défendre, qui sont capables de parler d'elle, qui en parlant bien, qui en même temps le craignent un petit peu, mais ça se voit pas trop. C'est une personne qui a des attributs du pouvoir, c'est une personne qui peut créer de la curiosité. Qui est-elle donc? On veut savoir. Quand il s'agit du sexe opposé, ça peut être une personne qui vous excite pour le coup, et vous pourriez avoir envie de vous en rapprocher. Et pour le coup, les témoignages que j'ai pu avoir sur Instagram de Les Doigts dans le Miel sont liés à des personnes en couple. J'en ai pas. Pourtant, je sais qu'il y en a un certain nombre dans la vie de tous les jours qui se déclarent aussi au travail. Mais peut-être que la dimension d'Instagram et le côté plus réseau social personnel amène ça. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez été en contact avec de telles personnes à un moment donné dans votre vie, auquel cas ça m'intéresserait d'en savoir plus. Et de manière anonyme, moi je ne diffuse pas les noms des personnes qui écrivent, même si parfois, et avec leur autorisation, je communique sur les messages privés que je peux recevoir pour dire à d'autres, vous n'êtes pas seul. Il y a moyen de communiquer dessus. On peut faire quelque chose. Et ça répond aussi à une certaine logique. La logique des rôles inversés, c'est que pour le coup, c'est le roi qui pourrait vous faire la cour. Imaginez un peu. Je vais prendre l'exemple du couple, parce que l'épisode du pervers narcissique, le premier, l'original, dans la saison 1, la bestialité, faire face à ses contradictions, c'était le cas d'une femme qui s'est faite prendre sous l'emprise de son mari. Et pour le coup, c'était l'abandon progressif et successif de tout un tas de choses qu'elle aime faire, de tout un tas de sujets actionner dans sa vie pour se sentir bien, pour se faire plaisir, pour progresser, pour avancer en tant que personne, en tant que femme, etc. etc. Et puis son mari, de fil en aiguille, il lui fait des remarques,
Il fait en sorte de la faire se sentir inférieure. Il se moque d'elle en public. Il fait des blagues. Au début, c'est des petites blagues pas méchantes, mais une, puis deux, puis dix, puis vingt, puis un peu plus dur, puis des humiliations successives, etc. Eh bien, en réalité, au départ, si on doit remonter la mécanique d'emprise, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est narcissique. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir valorisé. Il utilise sa domination et son pouvoir qu'il obtient ou qu'elle obtient sur les autres pour se sentir mieux. Et ça répond à une fracture émotionnelle, ça répond à une fracture mentale, ça répond à une fracture spirituelle. Il y a un truc chez cette personne qui va pas bien du tout. Et il souffre. Ou elle souffre. Seulement, la mécanique de glu liée à la toile que cette personne peut tisser dans la vie de tous les jours, elle est relativement lente. Parce que la lenteur crée le désir. Je ne sais pas si vous connaissez la série, par exemple, Fargo. Fargo a été... C'est une série qui a été promue par les... qui a été réalisée par les frères Coen. Elle a été récompensée avec des... Je ne sais pas combien de récompenses d'ailleurs, mais elle a eu énormément de succès. C'est un thriller policier qui raconte des histoires vraies, un petit peu modifiées pour protéger le prénom et le nom des personnes, ou par respect pour tous les morts qui apparaissent dans cette série, parce que ça relate des histoires de crimes, ce sont des enquêtes, des meurtres, des choses un peu farfelues. Et en fait, un des ingrédients principaux qui fait la réussite de cette série, c'est le suspense qu'il y a pendant qu'on la regarde. C'est tourné de telle sorte qu'on ait l'impression à chaque instant que ça va pas assez vite, et pourtant on nous en donne en permanence. Vous imaginez, c'est comme si vous avez une publicité. Voilà. Les publicités d'aujourd'hui, elles font entre 4 et 7 secondes parfois. Voilà, on veut vous vendre un coca, un orangina ou un truc comme ça. Vous savez quelle couleur ça a, vous savez quel nom ça a, vous savez quel goût ça a, vous savez qu'est-ce qui va vous faire du bien, et vous savez à quel prix vous allez pouvoir l'acheter et à quel endroit. C'est-à-dire partout, tout le temps, n'importe quand, et en plus frais. Pour le coup, c'est comme si ces 4 à 7 secondes de publicité, on les rallongeait plutôt en 4 à 7 minutes. Est-ce que vous imaginez la lenteur du truc ? Et pourtant, vous n'arriveriez pas à décoller. Parce que vous voulez savoir ce qu'il y a. C'est ça qui fait la réussite de la consommation d'un grand nombre de contenus. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos de Victor Ferry, qui est le fondateur de l'artisanat rhétorique, qui est un docteur en rhétorique, qui a une chaîne YouTube de plus de 300 000 abonnés, qui produit du contenu comme ça, et qui est extrêmement doué pour ça, parce que il y travaille, parce qu'il applique ces mêmes principes, ces mêmes concepts, et vous allez voir que dans ces techniques de copywriting, qui sont de quelques, qui le copywriting, c'est la capacité à maintenir quelqu'un dans un fil d'écriture pour le faire consommer de l'écriture, eh bien, c'est tout à fait hallucinant de voir à quel point certaines personnes qui y sont sensibles, et c'est une probablement une grande majorité, n'arrive pas à décoller, en fait. C'est comme quand votre téléphone est allumé, si vous le prenez le matin dans votre lit, et vous vous dites « Ok, dans 5 minutes, je suis parti de mon lit, je me lève et je prends mon café », et une demi-heure plus tard, vous êtes toujours là en train de scroller sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, un fil infini de conversations, de vidéos, de vidéos stimulantes, de vidéos... génial, de nouvelles images, de choses incroyables qui existent dehors, mais vous, vous êtes là dans votre lit et vous ne décollez pas de votre lit. Eh bien, il se passe le même principe lorsque vous rencontrez un pervers narcissique. Et c'est pour ça que les rôles sont inversés. C'est parce qu'à la base, c'est pas lui ou c'est pas elle qui vient vous chercher. C'est vous qui y allez. C'est vous qui y allez. Parce que vous avez du désir, parce que vous êtes curieux, parce que vous avez envie d'en savoir plus, parce que Vous voulez savoir parce que vous êtes intrigué. Pourquoi cette personne fait graviter autour d'elle d'autres personnes qui semblent si admiratives? Pourquoi cette personne fait graviter autour d'elle un écosystème de gens qui en parlent souvent, qui font mention de son prénom, qui vous donnent envie, en fait, qui vous transmettent cette capacité à vous aussi vouloir savoir qui c'est et à vous en rapprocher? Eh bien, je peux vous garantir que le mécanisme, je peux vous le garantir par du vécu, que le mécanisme peut durer plusieurs années. Et que dans le cas amoureux ou dans le cas professionnel, on ne s'en rend pas forcément compte. En 1, on ne sait pas ce que c'est. En 2, c'est abstrait. En 3, mais personne. Personne qui est autour d'elle, autour de cette personne, ne vous dira que c'est un pervers narcissique. Parce qu'elle n'est pas connue pour ça. Il n'y a que des victimes qui ne se rendent parfois même pas compte de ce qui leur arrive, qui peuvent comprendre. Et je vous garantis que quand ça prend vraiment, vraiment, vraiment du temps, il se crée un ancrage tellement fort qu'à partir du moment où vous êtes pris dans la toile, eh bien, on pourra repasser aux vrais chasseurs et aux vrais chassés. Parce que les rôles inversés, ils font en sorte qu'à un moment donné, si vous êtes la victime, c'est vous qui soyez le chasseur. Mais on vous a rien demandé. C'est vous qui faites la démarche. Et c'est tout à fait remarquable sur le plan psychologique de voir à quel point c'est paradoxal, à la limite du contradictoire, entre ce qui est bon pour nous, ce qu'on va chercher, ce qu'on peut trouver, et puis l'inversion d'un cycle à un moment donné. Alors en l'occurrence, je peux vous partager du vécu. L'appât du roi, c'était d'avoir quelqu'un qui a l'air extrêmement brillant. Le jeu de course, c'était de voir eh bien, toute une communauté autour de cette personne, une communauté construite sur des années de travail, sur de nombreuses références, sur tout un tas de marqueurs sociaux qui font que, waouh, cette personne, ça vaut le coup de s'y intéresser, quoi. On a envie de la rencontrer. On peut aller la voir à des conférences, on peut aller la voir sur des vidéos, on peut aller la voir dans des articles, on peut communiquer avec elle sur des sites web. Enfin, c'est génial. Les rôles sont complètement inversés parce que, du coup, vous faites la démarche de vous en rapprocher. L'autre, elle vous demande rien. Voire même, elle vous rejette. Mais elle vous rejette sans vous dire d'aller vous faire voir. Elle vous rejette parce qu'elle ne vous accepte pas totalement. Donc, il y a toujours une porte d'entrée. Et puisque celle-ci, la première, n'est pas la bonne, on va en essayer une deuxième, un peu plus tard. Une semaine peut s'écouler, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je peux vous dire que c'est le temps que ça m'a pris les 2 fois. Les 2 fois où j'ai été confronté à ce type de personne, ça m'a pris environ 2 ans et demi à 3 ans pour construire une relation. C'est long. En même temps, c'est le temps qu'il faut pour construire une relation. Mais pas pour construire une relation comme vous rencontrez quelqu'un dans un bar et puis c'est le coup de foudre amical, vous êtes super pote, voire même vous avez le droit de vous embrouiller 3 semaines après et de vous rabibocher toujours en tant qu'ami. Non, c'est pas ça. Non, là, c'est un processus beaucoup plus lent, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus vicieux, beaucoup plus subtil en réalité. Et du coup, beaucoup plus pérenne. Parce que le lien qui s'instaure à ce moment-là, il est extrêmement fort. Et c'est exactement la même chose que d'essayer de faire travailler des ennemis ou des amis. Il vaut mieux faire travailler des ennemis ensemble plutôt que des amis. Parce que les efforts qu'ils vont devoir déployer ensemble pour arriver à produire les résultats qui sont attendus vont être tellement plus importants que ceux des amis qu'en cas de coup dur, ils vont faire en sorte que ça continue de marcher. Et ce sera résistant. Résistant au temps, résistant aux échecs, résistant à tout un tas d'autres paramètres météo. Ce qui fait que quand ça arrive dans une relation qui vous a demandé beaucoup d'efforts pour être créé, et je reviens sur ces 2 ans et demi, 3 ans, il faut quand même être un acharné pour créer ce genre de relation, mais on le fait parfois malgré nous, il y a quelque chose de plus fort, ou bien on ne s'en rend même pas compte, on se rend pas compte qu'il y a autant de temps qui passe, juste on est là, et on essaie de se rapprocher de quelqu'un. Eh bien, ça fait que vous vous retrouvez en position de faiblesse en ayant l'impression d'être vous-même valorisé parce que on ne vous a pas dit non. Quand bien même, vous pourriez interpréter cela comme un oui. C'est-à-dire un oui, t'es le bienvenu dans mon cercle, mais attends, reste encore un peu dans le jeu de cour et laisse-moi briller devant tes beaux yeux. C'est ça la sensation. Ce qui nous amène à l'épisode prochain. L'arène. Le moment où on doit se battre avec les autres candidats, les autres prétendants, les autres personnages de la cour. Parce qu'on doit valider le fait que nous sommes l'élu. On doit aller se battre. Mais ça, c'est une histoire de secondaire, qui vient dans un deuxième temps plutôt, que je vous raconterai dans l'épisode prochain. Alors si vous avez des témoignages de pervers narcissiques, si ce que je vous dis vous parle, ou au contraire, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec l'approche, je vous invite à me partager un message sur le compte Instagram Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez m'envoyer un message privé, vous pouvez commenter une citation, commenter un épisode du même titre. Vous pouvez le faire de vive voix également sur l'application Encore par Spotify que j'utilise pour produire le podcast. Ce sont des histoires inspirées du vécu. Avant de passer à cette saison 7, j'ai produit 300 épisodes de podcast divisés en 6 saisons de 50 épisodes. La bestialité pour faire face à ses contradictions, la colère utiliser ses échecs de vie pour avancer, la faim développer une raison d'être pour progresser, la paix accepter de lâcher prise pour évoluer, le potentiel écouter le monde pour se métamorphoser, la conscience collective faire un pas de côté pour faire la guerre à la guerre. Le parti pris étant que la saison 7, peut-être d'autres saisons, est une réponse à un question and answer, les fameux Q&A d'Instagram, où vous m'avez partagé un certain nombre de questions auxquelles je vais répondre petit à petit, eh bien, dans les jours qui vont suivre, et que le point numéro 1 qui m'a été remonté, c'est celui lié au pervers narcissique. D'une part, par rapport au succès, je dirais global, de l'épisode des pervers narcissiques qui était... je ne sais plus, autour, entre le 40e et 50e épisode. Et d'autre part, par rapport au nombre de retours les concernant, il n'y en a pas eu 10 000. Mais c'était beaucoup trop important pour que ça passe inaperçu. C'est pourquoi j'ai décidé de leur dédier la saison 7, parce que c'est le sujet qui vous a le plus touché. Et j'ai fait en sorte de... dans ces premiers épisodes de la saison 7, de décrire le processus physique, psychologique, mais à la manière d'une histoire, avec beaucoup de métaphores, pour prendre d'autres images, d'autres points de vue que simplement être trop terre-à-terre dans la manière dont ça peut agripper. Et bien, pour vous raconter plutôt un cheminement à la manière d'une histoire, où je serais par contre très heureux de répondre à d'autres détails si jamais vous le souhaitez à travers de la psychologie appliquée ou encore de voilà, tous ces sujets liés au spirituel, liés à l'émotionnel, liés au mental et qui peuvent se traduire également physiquement. Parce que quand on perd 30 kilos, c'est pas mon cas mais déjà vu, parce que quand on perd 30 kilos parce qu'on vit une relation toxique, oui c'est physique, je suis désolé les gars mais 30 kilos c'est pas du 30 kilos spirituel. Je vous invite donc à me partager vos retours, éventuellement vos histoires. Je comprends aussi le côté pudique qu'il y ait à faire ça, mais un mot, des fois, permet de passer une étape dans soit sa capacité à partager des expériences vécues ou à sortir du bois. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée!